Merci d'écouter Radio Kati et nous recevons comme invité de la diaspora ce matin Vava Tampa qui est un Congolais de la diaspora justement puisqu'il vit à Londres au Royaume-Uni. Vava Tampa, je vous dis bonjour.
Bonjour.
Alors ça fait combien de temps que vous vous êtes allé vous installer à Londres et quelles sont les raisons qui vous y ont poussé?
Bon, je suis à Londres presque toute ma vie. Ce sont des raisons socio-économiques, mais aussi politiques qui ont poussé beaucoup de familles congolaises, ainsi que la mienne, de quitter le pays. Et depuis que nous avons quitté le pays, nous ne sommes pas retournés dans celui-ci.
Et qu'est-ce que vous faites sur place exactement à Londres?
Bon, je suis activiste de troisième heure. Et je suis le fondateur d'une organisation non-gouvernementale qui se nomme Save the Congo. Donc, je milite sur des questions congolaises, notamment sur ce que j'appelle les quatre grands problèmes du Congo, qui sont la culture d'impunité à Kinshasa, la croissance de l'insécurité à travers le pays, le commerce illicite de minerais qui financent, alimentent et soutiennent les guerres sanglantes dans le pays, et enfin, les échecs des institutions nationales au Congo.
Et ça, c'est le combat que vous menez au niveau de Londres, non pas à Kinshasa. Pourquoi?
À présent, je me trouve à Londres et à présent, des situations, des circonstances politiques au pays ne me permettent pas à être si active dans le pays. Donc, je fais ce que je fais, là où je suis, avec ce que j'en ai.
Bon, faut dire que vous avez fait vos études à Londres, puisque vous avez une licence en sciences politiques et histoire. Vous êtes également en train d'effectuer un master en sciences sociales et vous travaillez en tant que freelance rédacteur de discours pour les membres du Parlement britannique. Et comment est-ce que vous avez fait pour arriver à ce niveau-là, rédiger des discours pour être rédacteur de discours pour les membres du Parlement britannique?
Bon, c'est quelque chose que je me suis trouvé capable à faire. Donc, je me souviens, quand j'étais petit, j'étais très, très éloquent et j'étais capable de s'exprimer ou écrire des choses pour des magazines et ce genre de choses. Et après cela, l'une de mes amies m'avait demandé de rédiger quelque chose pour une autre amie que j'avais fait, qui était appréciée. Et après cela, il y avait d'autres personnes qui m'ont demandé à faire tant d'autres choses et je me suis trouvé devant un membre du Parlement britannique qui m'a demandé donc je vais parler sur l'Afrique, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Et je l'avais fait et cela a été apprécié et après cela il y avait un groupe de personnes, de parlementaires britanniques qui voulaient que je puisse faire des choses pour eux. Donc voilà, donc je me suis trouvé dans cette situation accidentellement.
Et donc, ce qui vous a poussé à devenir en même temps activiste de droits humains ou c'est un parcours que vous avez développé bien avant cela?
Non, je suis devenu activiste des droits humains par accident. Être activiste n'a jamais été l'un de mes projets, l'un de mes plans de vie. Donc, je me souviens, j'étais à l'université quand j'ai commencé à comprendre le fait du guerre sanglante au pays, ce qui s'est passé dans le pays, et cela m'a poussé à commencer à écrire, à demander à faire des plaidoyers auprès du parlementaire britannique, du ministre britannique. Et après cela, donc, je me suis décidé avec quelques amis d'établir quelque chose dans le gouvernemental, avec objectif de sauver les Congos.
Depuis combien de temps votre ONG existe et quelles sont les actions que vous avez menées jusque-là?
Donc, Save the Congo existe depuis 2008 officiellement et on a fait tant d'actions, tant de plaidoyers. La plus dernière plaidoyer que nous avons fait était au moins deux semaines passées. Donc, nous avons mobilisé 70 rabbins de la religion juive pour écrire au premier ministre britannique ainsi que aux leaders des oppositions britanniques, leur demander s'ils étaient élus comme premier ministre dans le pays, en Angleterre, qu'ils puissent mettre le Congo comme une priorité politique parce que le garçon dans ce pays a tué plus de 6 millions de personnes. Donc là, c'est la dernière action que nous venons de faire quelques semaines passées. Le Premier ministre britannique a trop d'influence sur ce qui se passe, non seulement dans le pays au Congo, mais ce qui est dans la région de la Grande Lacs. Et bien sûr, il y a une audace africaine qui disent derrière, derrière chaque dictateur en Afrique, se trouve une puissance occidentale. Ce que nous passons et ce que nous attendons est que dans quelques temps, dans quelques semaines, il y aura un cabinet et une fois que ce cabinet est établi en Angleterre, nous attendons le Premier ministre britannique de faire tout ce qu'il peut faire, d'utiliser son influence à l'ONU et ainsi que dans l'Union européenne pour aider à mettre fin aux guerres sanglantes dans les pays.
Parlons maintenant de la communauté congolaise à Londres. C'est vrai que nous avons eu plusieurs invités, hein, toujours de la ville de Londres, qui nous ont donné leur point de vue sur la communauté congolaise. Quel regard portez-vous sur cette communauté? Comment elle s'organise? Est-ce que c'est une des communautés les plus organisées, les plus majoritaires? Ou donnez-nous un peu un aperçu là-dessus.
Donc, la communauté congolaise de la Grande-Bretagne supporte bien. Nous sommes l'une des plus petites communautés étrangères en Angleterre, mais malgré cela, on trouve des médecins, des infirmiers, des footballeurs, des juristes, des scénaristes, des comédiens parmi nous, ainsi que des conseils municipaux. Nous sommes aussi, comme vous le savez très bien, nous sommes aussi la communauté la plus active et sensible sur ce qui se passe dans les pays. Et là, jusque là, je crois que nous sommes organisés, mais pas très bien organisés. Et je suis sûr que dans l'avenir, dans les jours à venir, nous serions l'une des communautés les plus actives et les plus organisées dans toute la diaspora.
Est-ce que vous avez une idée du nombre des Congolais que l'on comptabilise au niveau de la Grande-Bretagne?
À présent, nous pensons qu'il y a une affaire de 40 à 50 000 Congolais dans la Grande-Bretagne. Nous sommes un peu dispersés partout, mais la plus grande majorité sont à Londres, et à Londres plus précisément, ils sont situés au nord de Londres, donc dans une petite ville qui s'appelle Tottenham, ou Haringey. Et là, vous trouvez de grands restaurants congolais, de grandes boutiques, magasins, business congolais, dont la grande majorité, je voudrais dire, se trouve à Londres, et Haringey, Tottenham.
Si on doit parler d'organisation, comment est-ce que la communauté congolaise de Londres peut s'organiser?
Mais il faut comprendre, la première chose à comprendre, que nous sommes l'une des plus petites communautés étrangères. Et l'Angleterre, c'est une pays anglophone. Et le Congo, les Congolais sont des francophones d'origine. Donc, c'est pas facile de s'établir. Moi, je suis, je dirais, deuxième génération des immigrés d'origine congolaise en Angleterre. Donc, nos parents, nos mamans, nos papas, on travaille dur pour s'établir. Et je crois que ma génération, ceux qui étaient nés ou ceux qui ont grandi ici en Grande-Bretagne, feront mieux. Donc je suis optimiste que dans les jours à venir, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y aura des membres de parlementaires congolais au Parlement britannique et pourquoi pas aussi du ministre congolais au gouvernement britannique.
Oui, et prochainement il y aura des élections. Vous êtes activiste de droits de l'homme d'origine congolaise évoluant à Londres. Quel regard avez-vous sur l'organisation des élections? Vous pensez qu'il serait aussi intéressant que les Congolais des diasporas participent aux élections? Si oui, à quel niveau?
Mais bien sûr, c'est une des choses que le Congolais de la diaspora réclame. Presque tous les membres du gouvernement ont deux nationalités. Et cela ne leur empêche pas d'être parlementaires ou ministres, mais pour des raisons que nous n'arrivons pas à comprendre, ils nous empêchent, nous Congolais, qui vivent dans la diaspora ou à l'étranger, à participer activement à la vie politique dans le pays. Donc c'est quelque chose qui doit être réglé et réglé si bientôt.
Merci en tout cas, Vava Tampa, d'avoir accepté d'être notre invité de la diaspora de ce week-end. On vous souhaite bonne chance pour les autres projets que vous avez avec votre ONG Save the Congo. Je rappelle que vous êtes le fondateur de cette ONG-là, une organisation non gouvernementale, mais aussi activiste de droits humains. Au-delà de cela, vous avez un diplôme, hein, en licence, en sciences économiques, mais aussi plutôt en sciences politiques et histoire. Et vous faites actuellement un master en sciences sociales.